Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci. Alors je vous appelle parce que ça fait 2 ans que j'ai une vie très compliquée.
Ah bon ?
Parce qu'en fait, je vais commencer depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, mon voisin qui est célibataire, mon voisin du 2e étage, et je suis au 5e étage, qui est célibataire, donc, m'a invité à dîner. Je suis allée dîner chez lui pour faire du bon voisinage. Je pensais pas à plus. Oui. Et puis, ça s'est bien passé, mais je l'ai trouvé... J'ai pas trop aimé son caractère. Ça m'a pas trop plu. Il m'a réinvité à dîner. J'ai su retourner une deuxième fois et j'ai pu constater que je l'appréciais pas vraiment. Et donc, il m'a réinvité une troisième fois et là, j'y suis pas retournée.
Oui.
Et 2 ans plus tard, j'avais oublié mes clés chez moi. Donc, je lui ai envoyé un petit texto pour qu'il m'aide à m'ouvrir la porte de chez moi. Il est venu, il m'a aidé à ouvrir la porte. Et après, il m'a proposé d'aller boire un verre chez lui. Et il a été tellement amical, chaleureux, à la fois un petit peu, un ton un petit peu d'emballement, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a un peu piégée, quoi. Donc, je lui ai dit, bon, d'accord, je viens boire un verre chez vous.
Vous étiez certainement reconnaissante qu'il ait réussi à vous ouvrir la porte et...
Bien
une
sûr.
Façon de le remercier aussi, enfin.
Bien sûr, tout à fait. Je pouvais difficilement me dérober. Et donc, je suis allée boire un verre chez lui. Il m'a proposé d'aller au restaurant le lendemain, mais tout ça sur un ton toujours très amical. Et je me suis dit, bon, j'étais un peu naïve, j'étais un peu à l'ouest. En fait, c'était une période où j'étais très heureuse et très sereine. Et je me suis un peu laissée faire et je suis allée dîner avec lui. Mmh. Et le lendemain, il a sonné chez moi pour prendre un verre avec moi encore. Et je me suis sentie un peu obligée, encore une fois, à son ton, à sa façon de proposer les choses. Très enthousiaste, très amicale. Oui. Donc, je voyais pas ça comme de la drague, si vous voulez. Je voyais ça comme du voisinage, un peu...
Comme la sympathie, mais... Ouais.
Voilà, de la sympathie, exactement. Et puis là, il m'a un peu forcé la main pour qu'on ait une relation.
Ah bon ?
Oui, il a été très autoritaire avec moi.
Donc il a changé de registre, de ton.
Exactement, il a changé de registre.
Oui.
Et ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a un peu fait peur.
Et de quoi, oui.
Voilà, et j'ai pas osé dire non. Je me suis sentie obligée. Enfin, j'ai dit non une première fois, et puis il a insisté. Mm. Et donc, j'ai pas osé. J'avais peur, il était très autoritaire. Et là, de là est partie une relation comme ça sur 2 ans.
Ah bon
Il est venu sonner chez moi régulièrement, voire tous les jours à des moments.
Ah bon?
Oui, et je n'ai pas su comment m'en débarrasser. Alors, un soir, au tout début de cette histoire, un soir, je lui ai dit non. Il m'a quand même, il m'a encore forcé la main. Et je me sentais, si vous voulez, je me sentais un peu débordée par son activité sexuelle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le fait comme ça, qui me laisse pas de temps pour récupérer entre deux relations, ça m'oppressait.
Mais parce que quand vous dites qu'il ne vous laissait pas le temps de récupérer, c'est-à-dire que
tous les soirs, il venait frapper à ma porte pour avoir une relation.
Tous les soirs?
Tous les soirs. Au début, tous les soirs. Après, après ça s'est un petit peu...
Mais quand il arrivait, il était... parce que vous disiez au départ, il avait un ton qui vous paraissait, hein, que vous avez cru amical, chaleureux, sympathique, bon... Mais quand il est... Une fois qu'il... Enfin, vous dites qu'il vous a contrainte à avoir une relation sexuelle.
Oui.
Quand il est revenu, comment se présentait-il, autoritaire à nouveau?
Alors,
ou pour lui c'était indu, enfin normal, comme si vous étiez dans une relation de son point de vue à lui, hein, j'entends.
Oui, exactement, oui, c'était comme si c'était indu, comme si c'était. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après le premier soir, il m'a vraiment forcé la main. Il est venu le lendemain, il m'a dit, voilà, je voudrais que vous ne portiez pas plainte pour viol.
Ah bon ? Oui, donc ouais. Il savait très très bien ce qu'il avait fait. Hein.
Voilà, exactement.
Non, parce que c'est important ce que vous me dites, parce que même on voit bien d'ailleurs au départ, vous me parlez de naïveté, vous dites que vous ne l'avez pas vu venir finalement.
Non, j'ai pas vu.
Un côté très prédateur de sa part, très manipulateur, c'était un peu.
Ça.
Mais donc le lendemain après cette ce viol, puisque c'est lui-même qui emploie le mot. Il est revenu vous demander de ne pas porter plainte. Et comment était-il là ?
Il était assez sûr de lui,
oui.
Et à la fois un petit peu embarrassé quand même par la situation, parce qu'il avait vraiment peur que j'aille porter plainte. Et c'est ce que j'aurais dû faire de toute façon, parce que c'était un viol. Et par contrainte, si vous voulez. Alors après, il m'a pas violenté, mais bon, quand on est très autoritaire avec quelqu'un et qu'on parle très fort, ça peut être un peu impressionnant. Et puis, de toute façon, il m'avait.
Si à partir du moment où vous ne souhaitiez pas de relation sexuelle avec lui et qu'il vous l'impose, même si il ne vous a pas brutalisé par des comportements, le fait d'imposer une relation sexuelle, c'est un viol.
Ben oui. Donc voilà, donc pendant 2 ans, alors il y a des moments où je me suis rebellée, mais j'avais aucune prise sur lui, il continuait...
Quand il est venu, pardonnez-moi, parce que quand il est venu là, est-ce que vous, dans votre tête, voulez le lendemain vous dire de demander de ne pas porter plainte ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là, dans votre tête à vous ?
Dans ma tête, si vous voulez, comme il avait été à la fois... qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? C'est compliqué. En fait, bon,
oui, j'entends ça.
Oui, c'est compliqué parce que comme on avait bu un peu d'alcool,
oui, oui.
J'ai eu du plaisir dans la relation et ça m'a un peu pas culpabilisée, mais je me suis dit bon, je vais pas porter plainte parce que finalement, c'est pas un viol. Finalement, comme j'ai eu du plaisir, c'est idiot, hein.
Non, idiot n'est pas le mot. Non, mais non. Oui, vous vous êtes sentie coupable finalement.
Je me suis sentie coupable.
Vous êtes dit, à partir du moment où il vous a imposé, mais où finalement il y a eu du plaisir, vous êtes dit comme si vous participiez vous-même à ça. Mais...
C'est ça, exactement. Exactement. Et après, il est venu sonner donc tous les soirs pour avoir une relation.
Oh,
et puis, il s'est avéré. Je pensais qu'il allait être, que ça allait être un homme correct parce qu'il est très bon chic, bon genre. Et je pensais qu'il allait être correct, qu'on allait avoir peut-être une vraie relation finalement. Mais quand ça commence comme ça, ça peut pas être correct de toute façon.
Non.
Je me suis fait des idées. Je me suis fait complètement des idées.
Mais et... parce que vous me dites au départ, cet homme, il vous plaisait pas. Vous avez dîné une première fois, puis une deuxième fois. Il y avait des choses chez lui qui ne vous plaisaient pas, me dites-vous.
C'est ça, exactement.
Mais finalement, après, dans cette relation-là, vous vous êtes dit peut-être il pourrait s'installer une relation entre vous.
Ben oui, parce que je sentais un tel désir de sa part que je me suis dit, s'il me désire comme ça, il va peut-être se comporter, il va peut-être être un homme agréable pour moi. Je me suis dit ça, si vous voulez, comme j'ai cédé à son désir, alors que moi j'en avais pas, je me suis dit,
oui.
Peut-être que... Et puis si vous voulez, le fait qu'il vienne tous les jours comme ça et que j'ai des relations sexuelles avec lui tous les jours...
Il venait pour ça, ouais.
Il venait pour ça, oui. Et je n'avais pas d'espace pour me recentrer, Oui, parce que j'ai un trouble bipolaire, donc je suis assez vulnérable.
Ah oui.
Il y a ça aussi.
Il le savait, ça ? Vous l'aviez évoqué avec lui ?
Non, je n'avais pas évoqué avec lui. Non. Je ne le dis pas que j'ai un trouble bipolaire, parce que...
Vous avez raison. Ça ne concerne pas les gens. Enfin, ça, c'est... Et par rapport à ces troubles bipolaires, vous avez un traitement où, dans cette période-là, vous me dites que vous étiez très heureuse à ce moment-là dans votre vie. Vous étiez stabilisée, comme on dit.
Voilà, j'étais stabilisée. J'étais stabilisée, j'étais sereine. J'arrivais à profiter un peu de la vie, à être un peu légère, à être bien.
Mais fragile néanmoins. Un peu influençable finalement.
Voilà, exactement, influençable et fragile, oui.
Et quand il venait comme ça, en fait, il venait pour avoir des relations sexuelles, il repartait. Il ne vous a jamais, vous ne vous êtes jamais vu à l'extérieur. Vous me dites parce que les premières fois, il y avait eu des invitations à dîner.
Il m'a emmené au restaurant au début. Il m'a emmené au restaurant deux fois. Et c'est vrai que moi, je parlais pas beaucoup. J'étais assez pétrifiée en fait.
Vous aviez peur, oui, c'est ça. Il vous faisait peur, cet homme.
Il me faisait peur, exactement. Oui. Il me faisait peur, et je voyais que je me faisais complètement dominer. Oui. Et que je n'arrivais pas à reprendre le dessus, sur cette situation.
Oui, oui. Il y a une forme d'emprise là dans ce que vous décrivez psychologique.
Ben oui. Mais je suis toujours sous emprise. Je suis encore sous emprise.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous êtes toujours sous emprise dans cette histoire-là ou...
Oui, dans cette histoire-là.
Ou ça vous est arrivé déjà dans d'autres histoires amoureuses ou peut-être amicales de vous sentir au fond dominée, de ne plus savoir mettre des limites finalement à quelque chose ? Vous avez du mal avec les limites ?
Oui,
parce que vous me dites quelque chose qui peut paraître étonnant, j'imagine. Enfin, vous dites, dans la mesure, je reprends mon mot, dans la mesure où cet homme vous désirait tellement, au fond, il aurait pu naître une relation. Mais comme si vous étiez absente de ça, presque un peu chosifiée.
Ah, il m'a complètement chosifiée, mais complètement. C'est bien le problème. Et je me suis sentie très très vite chosifiée et que je n'ai pas pu me réincarner, je n'ai pas pu reprendre la situation.
Oui, reprendre vous affirmer, pouvoir dire non.
Ouais. Justement, j'ai appelé hier parce que j'ai essayé de le ghoster, comme vous parliez du ghosting hier soir.
Ah oui, on en parlait hier soir, oui.
Donc j'ai essayé de le ghoster, mais il n'y avait rien à faire.
Il habite à côté.
Ben, il habite à côté, donc c'est ça. Et puis, il avait une telle emprise sur moi. Déjà, j'étais déjà un peu terrorisée. Donc,
Il s'est senti finalement invincible, puisqu'il est venu le lendemain en vous demandant, pas pour s'excuser, en vous demandant de ne pas porter plainte. Il savait très bien que vous n'étiez pas, vous,
consentante.
Mais à partir du moment où là, finalement, s'est mis en place une relation terrible, c'est-à-dire qu'au fond, il a pris le pouvoir à ce moment-là.
Il a complètement pris
le
pouvoir.
Il a senti que vous étiez pétrifié, et du coup, il est revenu.
Bah exactement.
Mais alors, ça a duré deux ans.
Ça a duré deux ans. Ça a duré de juillet 2019 à juin 2021.
Ah oui.
Et j'ai fini par aller porter plainte à la police pour viol, pour le viol qu'il avait commis en 2019. Donc.
Qu'est-ce qui vous a décidé un jour finalement à faire cette démarche, à porter plainte ?
Mais je voyais que je ne m'en sortirais pas et que ça allait mal tourner. Parce que je me sentais de plus en plus en rébellion.
Oui.
J'avais envie de faire des bêtises, par exemple d'aller lui crever les pneus de sa voiture dans le parking, enfin de faire des choses comme ça qui me ressemblent pas du tout en plus. Mais j'étais tellement à bout.
Oui, il y avait une colère qui bouillonnait en vous.
Oui, il y avait vraiment une colère qui bouillonnait en moi.
Une rage presque, oui.
Et donc
vous étiez mal, finalement.
J'étais très très mal.
Et dans votre entourage, personne ne s'est rendu compte de cela. Vous n'avez pu en parler à personne.
Alors j'ai 50 ans, donc j'ai des grands enfants.
Oui.
Et j'ai fini par leur en parler parce qu'ils voyaient que j'allais pas très bien. J'ai fini par leur en parler, mais sinon j'ai pas pu m'ouvrir à d'autres personnes que mes enfants. Je suis très secrète, j'ai du mal à faire confiance.
Ça a dû être... Et puis, ce lien quand même très complexe avec cet homme était compliqué parce qu'on voit bien la culpabilité. Enfin, il y a chez vous comme si au fond il avait fini par vous convaincre que vous étiez consentante. Enfin,
oui, complètement. J'avais pas mon mot à dire pour lui.
C'est ça. Il venait, il se servait.
Oui, et même quand je lui disais non, il se servait quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Non, mais j'aurais dû porter plainte.
Vous l'avez fait. C'est-à-dire que c'est après avoir parlé à vos enfants que vous avez pu trouver Mais au fond, vous reprendre, vous ressaisir, enfin, comme si vous sortiez de cet état un peu de sidération. Vos enfants ont dû. Comment ont-ils réagi, vos enfants?
Quand j'aurais raconté, bon, mon fils, j'ai un fils et une fille, bon, mon fils, il a réagi en homme quand même, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très au début. Il me croyait pas, il me disait mais t'es sûre maman, voilà. Bon, donc ça m'a pas tellement soutenue.
Il ne comprenait puis, pas finalement parce non, que il voilà, il ne comprenait pas. Et puis certainement que c'était peut-être insupportable pour lui d'entendre cela aussi.
Oui, tout à fait.
Justement aussi peut-être en tant que parce que c'est un homme.
Oui.
Ça renvoie une image très angoissante. Donc, c'était peut-être pas tant que, vous voyez, il y a une forme de, une réalité qui est tellement dérangeante, qui heurte, angoissante. Parfois, on la met à distance. On préfère se dire, c'est pas possible.
D'accord. Et ma fille, bah, elle m'a comprise, elle m'a écoutée, elle m'a dit de porter plainte si je voulais porter plainte.
Oui,
elle m'a même accompagnée parce que j'ai dû voir un expert psychiatre dans le cadre de la plainte. Elle m'a même accompagnée pour aller voir l'expert psychiatre. Elle a été adorable.
C'est bien, elle a été vraiment à vos côtés. Et comment avez-vous été accueillie? C'est un commissariat, une gendarmerie?
Alors en fait, je n'ai pas osé aller au commissariat directement.
Oui.
Parce que je ne savais pas comment j'allais être reçue et comme je suis assez timide en plus, ce n'était pas un geste évident pour moi. Donc j'ai écrit au procureur de la République.
D'accord, je comprends. Oui.
J'ai tout raconté dans une lettre.
Oui.
Et
vous avez un retour à ce jour?
Le commissariat m'a appelé à peu près un mois et demi après que j'ai envoyé la lettre.
D'accord.
Et j'ai pu faire une déposition assez rapidement.
Vous avez été bien reçue?
J'ai été très bien reçue.
Donc la lettre, ça suit son cours, votre plainte.
Ma plainte suit son cours, oui.
Mais alors, comment? Parce que ce qui est très dur, c'est que vous habitez toujours à côté de cet homme.
Bah oui, j'ai eu envie de déménager, mais déménager c'est compliqué, ça coûte cher. Vous me conseilleriez de déménager?
Oh oui. Vous êtes locataire?
Oui, je suis locataire.
Oh oui, il faut que vous déménagiez. Enfin, je vois pas comment vous pouvez, même pour vous, pour vous sentir en sécurité, pour retrouver une sécurité intérieure. C'est insupportable de savoir que cet homme vit en dessous, dans le même immeuble, peut venir, même s'il ne le fera pas. Parce que finalement, vous me dites en juin, vous avez décidé, donc vous avez porté plainte auprès du procureur, mais lui, ne le sachant pas, et a continué à venir vous voir?
Il a continué à m'envoyer des textos, etc. Et la police l'a appelé pour lui demander d'arrêter de me solliciter.
Parce que vous lui avez dit, s'il vous envoyait des textos qu'il ne venait plus vous voir, c'est parce qu'il savait que vous aviez déposé plainte?
Non, les textos...
Pourquoi
c'était...
il s'est arrêté, finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, vous n'êtes pas dans sa tête, évidemment, mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il s'est arrêté? Puisque vous me dites qu'il est venu très régulièrement, presque tous les jours, tous les soirs.
Voyant que je ne lui ouvrais plus et que à ces textos, je répondais des choses très méchantes...
Oui.
Pour le blesser, pour plus qu'il vienne, il a fini par arrêter de venir, quand même.
D'accord, bon...
Mais c'est parce que je pense que la police l'a appelé pour lui dire de plus venir parce que la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il m'a dit pourquoi t'as prévenu la police. Il s'est un petit peu agacé. Donc il a été informé par la police de la plainte.
D'accord. Bon. Et depuis, vous ne lui parlez pas là au téléphone, on a dû vous déconseiller.
Non, j'ai plus aucun contact.
Ah oui, il ne faut plus avoir de contact. Oui, sauf, pardon.
Aujourd'hui, je l'ai vu par exemple. Aujourd'hui, je l'ai vu dans l'ascenseur. Alors, je ne suis pas rentrée dans l'ascenseur, je suis restée à l'extérieur. Et il a fini, et je me suis reculée pour plus qu'il puisse me voir. Et il a fini par me dire je te renvoie à l'ascenseur. Il m'a quand même parlé, quoi. Il m'a quand même. Ça m'a embarrassée, j'aurais préféré qu'il ne me parle pas.
Oui, je comprends. Mais c'est pour ça que c'est insupportable, cette promiscuité.
Oui, c'est très
dur. De continuer à vivre dans, là où il se trouve.
Oui.
Enfin, c'est pas tenable, je trouve, pour vous.
Non, c'est très dur. De toute façon,
c'est pas tenable. C'est pas tenable et ça vous met dans un état où vous êtes finalement. Enfin, je ne sais pas. Je peux pas parler à votre place, mais un peu un état d'être sur le qui-vive.
Oui, j'ai été très sur le qui-vive et même pendant ces 2 ans, j'étais très angoissée, très anxieuse à l'idée qu'il vienne frapper à ma porte. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce que je vais le fait qu'il... dès qu'il frappait à ma porte, j'avais une angoisse immense qui montait et c'est pour ça que je lui ouvrais la porte pour que cette angoisse cesse en fait. Enfin bon, c'est vraiment compliqué.
Oui, c'est-à-dire que vous êtes, il y a quelque chose de. De l'ordre d'une emprise psychologique très forte et sur il y a c'est important aussi enfin j'imagine que l'expert psychiatre que vous avez vu vous lui avez parlé aussi de vos troubles bipolaires parce que c'est aussi à prendre en considération en termes de fragilité
oui,
de vulnérabilité
c'est sûr que si j'avais pas eu un problème psychiatrique il aurait pas pu avoir de l'emprise comme
ça. On ne sait pas, parce que vous savez, il y a des personnes, regardez parfois ce qui se passe dans les mouvements sectaires, des personnes qui, en apparence, ont l'air bien structurées, bien équilibrées, et qui parfois se laissent prendre parce qu'elles sont à un moment de leur vie dans une phase où elles sont un peu vulnérables. On peut être aussi dans une phase vulnérable sans avoir de troubles psychiques, hein, vous savez.
Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, j'étais vulnérable. Hein.
Déjà, vous étiez vulnérable en étant une femme seule.
Oui.
Ça paraît. C'est terrible hein, de dire ça, mais c'est une réalité.
Ben oui.
Ben oui, vous auriez eu un compagnon, ça serait jamais passé.
Tout à fait.
Donc,
une grande injustice aussi. Hein.
Mais il y a et alors on voit bien enfin quelque chose qui s'est enclenché où vous lui avez plus d'emblée. Il y a eu effectivement vous lui avez plus à lui d'emblée et il a cherché alors sous couvert ça peut être une relation comme on peut avoir avec ses voisins conviviales bon et on peut aller prendre un verre avec un voisin ou déjeuner ou dîner sans pour autant être offerte et acquise.
Ben oui.
Mais dans la tête de certains hommes, encore, une femme qui accepte un verre, c'est comme si elle était consentante à tout. Vous savez, dans la fréquence des viols, le chiffre des viols est sous-estimé. Hein. Et sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte. Et souvent, parce qu'on imagine, ce que les femmes redoutent, c'est le viol par un agresseur inconnu. Alors, on imagine le parking, la rue sombre, des choses. Mais beaucoup de viols se produisent avec l'agresseur est connu de la victime.
Oui.
Peut faire partie de son entourage amical, professionnel, et où parfois il peut y avoir une soirée, un verre de prix, vous savez, le fameux tu montes prendre un dernier verre, et où finalement il peut y avoir un verre de prix, mais sans pour autant, ça ne signifie pas que prendre un verre signifie désirer vouloir une relation sexuelle.
Et non, mais apparemment...
Et beaucoup de femmes, du coup, ne portent pas plainte parce que quand l'agresseur fait partie de l'entourage et qu'au fond, beaucoup disent « Oui, mais je n'aurais pas dû y aller. J'ai accepté de prendre un verre avec lui. Je n'aurais pas dû. » Du coup, finalement, il y a un retournement de la culpabilité et comme si elles s'étaient elles-mêmes mises dans cette relation alors qu'en fait, c'est plus un piège qu'autre chose.
Voyez,
parce qu'un homme équilibré et bien structuré, même s'il l'éprouve à ce moment-là, et même avec de l'alcool, parce que l'alcool n'excuse rien, je suis désolée, un désir très fort, irrépressible, pour une femme avec qui il passe une soirée, si à partir du moment où la femme dit non, c'est non. C'est tout. Alcool
mais
ou pas.
Oui, non mais c'est sûr. C'est sûr, non, mais c'était un piège. De toute façon, je le dis comme ça.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Au départ, il y a malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous avez perdu vos clés. Et bah, vous le connaissez, vous allez demander comment on ferait. Voilà, ce voisin, vous le connaissez, lui demander de l'aide. Bon. Il vous aide avec, j'ai sur votre petite fiche une radio ouvert à votre porte. Et finalement, ben là, il a profité. La brèche était, c'est-à-dire que je t'ai aidé, tu viens prendre un verre, enfin, et vous, finalement, vous avez été, c'est terrible, poli.
Oui, exactement.
Au départ, très poli. En disant, bon, il m'a aidé, oui, je ne peux pas refuser. Alors après, où en êtes-vous? Comment vous sentez-vous, vous, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je me sens très très mal.
Très mal.
Je me sens en fait, je me sens vidée, je me sens humiliée, je me sens chosifiée. Vous avez employé ce mot et c'est exactement ça. Mmh. Je me sens chosifiée, j'ai plus d'identité. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi aujourd'hui. Mmh.
Vous l'avez bien expliqué, ça, ce que votre ressenti à l'expert psychiatre?
Non, j'ai pas pu. Il a pas été très accueillant.
Ah bon?
J'ai pas pu lui exprimer. Non, ah j'ai bon pas pu lui exprimer. Il aurait peut-être fallu que j'en parle avec vous, par exemple, avant, pour avoir les mots pour le dire, parce que c'est vrai que. C'est vrai que là, je commence à pouvoir en parler.
Oui,
depuis. Mais pendant longtemps, j'ai pas pu en parler. Quand je suis allée voir l'expert psychiatre, j'étais encore très très mal au point d'être dans une colère telle que je pouvais pas m'exprimer sereinement et mettre des mots sur mes angoisses.
Parce que là, vous le faites bien. Hein. Vous exprimez bien ce que vous ressentez. Est-ce que il n'est pas trop tard d'ailleurs pour cela, parce que pour vos troubles bipolaires, vous êtes suivi par un psychiatre qui vous prescrit votre traitement?
Oui, c'est un psychiatre.
Avec qui vous avez une bonne relation?
Sans plus.
Sans plus.
Oui,
vous n'êtes pas en thérapie avec lui.
Non, je suis pas.
Donc avec lui, vous n'avez pas évoqué là ce que vous
j'ai
avez
subi. J'ai évoqué la plainte. Je lui ai dit qu'il y avait un voisin qui m'avait abusé et que j'avais porté plainte, mais c'est tout.
Et il n'a pas, il ne vous a pas demandé comment vous étiez suivi. Non, il n'a pas posé de questions.
Non, il n'a pas posé de questions.
Parce que, je pense que ça serait important que vous bénéficiez là. Ça me paraît primordial d'un soutien psychologique, Géraldine.
D'accord.
Oh oui. Que vous soyez accompagnée.
D'accord.
Parce que c'est comme s'il y avait aujourd'hui, ça, vous avez agi, il y avait quelque chose un peu comme un automate en vous. Oui. Comme si vous ne. C'est pour ça que je pensais à quelque. Comme si vous n'étiez plus un sujet, une personne pensante. Et, alors qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui a cette capacité à réfléchir, à verbaliser. Mais face à cet homme. Vous étiez comme une poupée de chiffon, quoi. C'est l'image qui me vient, en fait.
Oui, c'est exactement ça.
Et il a dû le sentir, d'ailleurs. Enfin, il y a quelque chose, il s'est engouffré là-dedans. Est arrivé dans votre histoire personnelle, il y a eu des moments dans votre vie, ou peut-être dans votre enfance, où vous avez comme ça, où vous êtes retrouvé dans une situation où on ne vous considère. Oui. Ou on ne vous considérait plus comme une personne, mais plutôt.
Je me sentais comme ça avec ma mère, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai des difficultés aussi. Oui. Mais je me sentais comme ça avec ma mère, assez chosifiée, assez niée.
Comment ça se traduisait? C'est-à-dire, comment elle était, votre mère, avec vous?
C'est-à-dire qu'elle ne prenait pas en considération mes demandes, mes choix. Elle était souvent contrariante.
Intrusive un peu avec vous?
Voilà, intrusive, exactement. Intrusive, tout à fait. Elle était intrusive et elle était elle était abusive, quoi. Intrusive, abusive, je sais pas.
Oui, donc il fallait pas la contrarier. Elle se mettait en colère, sinon, qu'est-ce
voilà,
qui se passait?
Voilà, elle se mettait très en colère. Elle se mettait très en colère et il fallait pas la contrarier.
Donc très tôt, puis... vous avez intégré la docilité, un peu la passivité, pour pas la contrarier.
Oui. Oui, oui.
Vous viviez seule avec elle?
Je vivais avec ma grande sœur et elle.
D'accord.
Mais quand ma grande sœur n'était pas là, elle se déchaînait un petit peu.
De quelle façon?
Ben, par exemple, elle invitait des hommes à la maison.
Et qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire, elle invitait des hommes
Elle avait des relations sexuelles et je voyais ce qui se passait. Enfin bon, des choses comme ça.
Vous étiez témoin de ces ébats sexuels avec des hommes?
Oui, j'ai été témoin de ces ébats sexuels avec des hommes.
Et ça, c'était dans votre enfance?
J'avais 12 ans.
Voilà. Oui,
oui c'est dur, c'est dur.
Et vous étiez... Parce qu'à 12 ans, ces hommes qui venaient comme ça à la maison, est-ce que certains se sont intéressés à vous?
Non, non. Mais j'ai pas subi de violence, d'agression sexuelle.
Mais,
oui, enfin, rien.
Parce que le fait de voir votre mère dans cette situation-là, c'est un traumatisme.
Oui.
C'est qu'on voit bien à quel point elle pouvait pas être une mère pour vous. Et certainement, si vous évoquez cela, c'était sous l'effet de l'alcool où votre mère avait des troubles psychiques. Vous pensez?
Non, c'est vrai qu'elle. C'était pas sous l'effet de l'alcool. Et
non, elle n'était pas alcoolisée.
Non, elle n'était pas alcoolisée quand elle faisait ça. Et a priori, elle n'a pas de troubles psychiques avérés.
Donc, ça paraît quand même étrange comme comportement. Ces hommes qui venaient à la maison. Et alors que vous étiez présente, vous voyez?
Ben oui.
Votre mère aurait pu. Quelle est une sexualité qu'elle aille dans des clubs. On en parlait la semaine dernière, libertin. Mais qu'elle est en dehors. Mais là, c'était dans la maison et vous étiez présente et elle savait que vous pouviez voir ces scènes-là. Et ça, forcément, ça interroge parce que on se dit, soit elle n'était pas dans son état normal. Et alcoolisée ou prenant d'autres substances, ou alors quand même avec alors sans que ça relève de la psychiatrie, mais quand même quelque chose d'un trouble.
Oui, mais je suis d'accord.
Vous voyez,
avec
parce
vous.
Que pour une, enfin déjà le fait de s'exposer dans sa sexualité devant ses enfants. Et de faire prendre des risques à ses enfants. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous avez vu, vous avez fait votre première expérience de ça, des hommes, finalement, qui venaient et où votre mère était... Alors, même si, on n'ose pas dire, elle les faisait venir. Mais enfin, vous voyez, il y a une image de... C'est très angoissant, ce que vous décrivez.
Oui, oui, ça m'a beaucoup angoissée. Hein.
Pour une, pour une enfant, parce qu'à 12 ans, on est une enfant...
Oui.
Encore, et voir votre mère se livrer à des ébats sexuels avec plusieurs hommes, c'est même si vous n'avez pas subi vous-même et heureusement d'attouchement, ça a fait effraction en vous, dans votre tête.
Oui, oui.
Parce que la scène que vous décrivez est un traumatisme profond. Et peut expliquer alors vos difficultés aussi d'adulte, hein, vos troubles bipolaires, et aussi peut-être cette immense vulnérabilité que vous avez éprouvée face à cet homme.
Oui.
Où finalement c'est comme si vous étiez enfant et dans l'incapacité de vous défendre. Cet homme qui vient frapper à votre porte, finalement, comme si vous étiez... C'est pour ça que j'utilisais le terme, un peu comme une poupée de chiffon entre ses mains et que vous n'aviez pas d'autre choix que de lui ouvrir votre porte. Parce qu'en fait, derrière, moi, j'entends de la peur.
Oui, oui. Une grande peur. J'ai eu une grande peur, là. Pendant 2 ans, j'ai eu peur tous les jours.
Mais comme vous avez dû avoir peur quand vous aviez 12 ans et même avant.
Oui. Bien sûr, j'avais très peur de ma mère.
Vous avez des liens encore avec elle ?
Très peu.
Très peu. Moi, je pense vraiment, Géraldine, il faut que vous soyez accompagnée et vous pourriez vous mettre en contact avec une association d'aide aux victimes. Au commissariat, d'accord, ils peuvent vous donner les coordonnées.
D'accord.
Peut-être l'ont-ils fait, d'ailleurs.
Non, j'ai pas eu.
Parce que ça serait bien que vous preniez contact avec une association d'aide aux victimes dans votre département et que vous rencontriez, ils pourront vous donner, alors il peut y avoir des groupes de parole, des entretiens individuels, un soutien aussi juridique, parce qu'il faut que vous ayez un bon avocat, et un accompagnement psychologique, là. D'accord. Avec quelqu'un qui puisse être à vos côtés et vous accompagner.
D'accord.
C'est essentiel. Et qui peut même faire, je vais vous dire, alors même si la démarche, vous la faites pour vous, pour aller mieux, pour vous retrouver et pour pas finalement être envahi par le dégoût de vous-même. Parce qu'il faudrait surtout pas que ça soit ça qui prenne le pas. Vous voyez, quand vous me parlez
de
cette honte.
J'ai eu ce sentiment. Ça va mieux, mais j'ai eu ce sentiment. Oui.
Donc, c'est important que vous soyez accompagnée. Et le psychologue ou psychiatre, parce que vous pouvez voir aussi un psychiatre, autre que celui qui vous prescrit votre traitement, puisque vous me dites que vous n'accrochez pas trop. Hein. Mais ça peut être un médecin psychiatre qui vous suit dans le cadre d'une thérapie et qui pourra faire... C'est, ça se fait, hein, ça, il faut que vous le sachiez, une attestation pour le tribunal et même pour le procureur. Enfin,
d'accord.
Vous voyez, où là, ce que vous n'avez pas pu dire à l'expert psychiatre, il pourra dire, j'ai reçu à ce jour madame un tel, que je suis en thérapie et qui, suite aux violences subies, a développé tel ou tel symptôme. Parce que ça, d'accord, ça compte aussi, hein, d'avoir une attestation, un certificat médical.
D'accord.
Et un professionnel peut vous le faire. Hein.
D'accord, mais je sais.
D'accord.
Pas.
Oui, ah, si, oui, si. C'est pour ça, ça peut être une pièce qui peut être jointe à votre dossier plus tard. Il faut que vous le sachiez. Vous n'avez pas d'avocat encore.
Non, pas
non.
encore.
Alors, il faut vraiment que vous vous rapprochiez d'une association d'aide aux victimes dans votre région.
D'accord.
Hein, vous pouvez regarder un peu sur Internet et vous pouvez même téléphoner au commissariat. Souvent, à l'entrée, ils ont des coordonnées d'associations, mais pouvez leur passer un petit coup de fil en disant, voilà, je suis venue déposer plainte. Pouvez-vous m'indiquer les associations d'aide aux victimes vers qui je pourrais me tourner ? C'est important de ne pas rester seule.
Oui, c'est vrai. Oui, il faut pas que je reste seule. J'ai tendance à m'isoler, mais.
Et
pas.
Je pense vraiment, je vous encourage vivement à déménager. Même si ça a un coût. Ça a un coût, c'est vrai, le déménagement, mais moindre que de rester là, à proximité de cet homme. Parce que ça a un coût psychique aussi. Et d'accord, il faut que vous soyez dans un environnement où vous vous sentez en sécurité. C'est primordial. D'accord ?
Oui, d'accord. Bon. Merci beaucoup, Caroline, pour votre aide. Ça m'aide beaucoup.
Bon. Mais écoutez, je vous embrasse, Géraldine. Prenez soin de vous et vraiment, voyez, rapprochez-vous de cette association qui va vous aider, vous orienter à la fois sur le plan juridique et sur le plan psychologique.
Très bien, d'accord.
Je vous embrasse, Géraldine.
Merci, Caroline. Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.